Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Bien, avant de poursuivre notre investigation dans la structure du rituel du Yasna, je voudrais attirer votre attention sur un formulaire qui a été déposé à l'entrée de la salle. Le collège vous serait reconnaissant de bien vouloir y répondre parce que ça aide bien sûr notre administration à cibler en quelque sorte les publics concernés. Bon, c'est sans obligation de votre part, bien sûr, mais ce serait gentil. Alors, merci. Nous allons donc continuer notre investigation en revenant vers ce texte étrange dont vous avez la traduction, qui, comme vous l'avez pu le constater, n'est pas très parlante, hein, du Shusho Mantra, la formule du conquérant du bétail. Et nous avions entamé cet examen lors de la dernière leçon. Et je vous avais fait remarquer que les deux indices peut-être les plus significatifs, ceux que nous allons exploiter, c'est le double mouvement du Panthéon, d'une part, et de la référence textuelle, d'autre part. Or, comment le Panthéon est-il évoqué à travers le texte de la formule du conquérant du bétail? Eh bien, je répète, hein, pour reprendre, pour coller, dans la première strophe, il est question de Gena, des femmes divines, qui ne sont pas Achi et Armaïti, la juste pensée, et la déesse Achi, la chance, qui ne sont pas évoquées en tant que personnalité divine, mais en tant que caractéristique sacrificielle. La première strophe. La deuxième strophe, ce sont les démons. C'est une strophe blame, comme nous disons. Les démons. Strophe 3, Ahura Mazda. Strophe 4, Ahura Mazda, à nouveau, elliptiquement par vœu l'ensemble multiple du Panthéon. Ensuite apparaît finalement le feu. Strophe 5, les Amushas Penta, au pluriel. Enfin, dans l'ultime strophe, Spenta Mainyu, Spenta Mainyu, présence qu'il faudra commenter, avec Ahura Mazda, c'est la strophe 6. Ensuite, strophe 7, retour définitif au feu, et enfin, dans la même strophe, il est question à nouveau de Gena, mais à nouveau envisagé non pas comme personnalité divine, mais comme bienfait, la santé et l'immortalité. Alors, voilà le schéma, la structure, pas structure par laquelle, comme vous pouvez le constater, indépendamment de ces entités féminines qui ne sont pas véritablement des déesses dans ce contexte, le mouvement, l'importance de ce mouvement, c'est de voir le Panthéon se résorber lentement dans le feu. Dans le feu. Le mouvement de la référence textuelle est, lui, beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit, à travers les évocations textuelles qui sont faites, d'un relais entre le Yasna 34, c'est-à-dire le dernier chapitre de la première gatha, et le second chapitre du Yasna Haptankaiti, le Yasna 36, qui est consacré au feu rituel. Tout d'abord, avant d'envisager le problème, le Yasna 34, quels éléments du Yasna 34 sont évoqués par ce texte? Eh bien, la strophe 2 et la strophe 3, qui, comme nous le savons déjà, Yasna 34, 2 et 3, fait allusion à un rite qui consiste à déposer autour de quelque chose, probablement du feu du sacrifice, Pairi autour d'eux, Clarasinda, donné en disposant autour, des êtres vivants, des gaïtas, des êtres vivants. Donc, entourer le feu d'êtres vivants. C'est la première évocation. La strophe 4 du Yasna 34 est une évocation du feu. Il est là déjà, dans le Yasna 34, et il est qualifié de Chitra Avangra, Chitra Avar, celui dont la faveur est remarquable, est visible, saute aux yeux. Donc, amorce au fond de ce thème de la protection que nous connaissons bien dans notre texte, thème de la protection qui, mot pour mot, survient dans la strophe 5, avec la racine tra, demande de protection, qui se prolonge jusqu'à la strophe 7, qui est citée dans notre Shusho mantra, Ata ne trasdum, n'est-ce pas, la dernière ligne du Yasna 58.5. Alors, nous allons revenir à ceci parce que nous devons reposer problème du feu, qui est l'acteur principal une fois que ce texte se termine. Ce texte aboutit au feu, en quelque sorte. Il faut replacer cette question-là dans un contexte plus général. Et je dirais, je dois faire une remarque théorique préalable. L'Avesta nous confronte à, point de vue en ce qui concerne le feu, à une ambiguïté fondamentale. N'est-ce pas ? Nous sommes tous, hein, nous savons, écartelés entre l'importance qui est accordée au feu dans la représentation générale que nous nous faisons du mazdéisme. Vous savez que c'est le vocabulaire confu que l'on peut lire n'importe où, de considérer les mazdéens comme des adorateurs du feu. Il n'est pas nécessaire de pister l'origine de cette représentation. C'est celle des premiers voyageurs en Iran qui ont été en contact avec les mazdéens survivants. Hein, des adorateurs du feu. Bien. Cette représentation est passé dans la matière érudite elle-même, surtout par le biais de l'archéologie et de l'histoire. Peut-être, je ne sais pas si c'est extrêmement sensible dans l'enseignement de mon collègue Pierre Briand, je ne sais pas, mais je sais que lui-même est un peu mal à l'aise, et nous en avons discuté souvent, n'est-ce pas, lorsqu'il se trouve obligé de confronter la conception que les archéologues se font du culte du feu à l'intérieur du mazdéisme et la conception que, d'autre part, les philologues s'en font et qui est très différente. Or, donc, cette expression convenue de culte du feu pour définir le mazdéisme se heurte à cet aspect étonnant de l'Avesta où le feu est très faiblement documenté, très faiblement mentionné, est très faiblement documenté. Certainement, le feu dans l'Avesta, bon, il fait bel et bien partie, d'une certaine manière, du Panthéon. Il est associé avec l'agencement, c'est tout de même une notion importante, il est associé avec l'agencement au temps de midi, qui est, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense, le temps zéro du sacrifice, puisque le temps juste de midi, comme dit le texte, hein, le temps juste de midi. C'est le moment du feu, c'est le point central de la journée, le zénith associé au feu. Mais, indépendamment de cela, aucun texte ou presque ne lui est consacré. Il n'y a pas un yacht pour le feu. C'est même la seule divinité qui donne son nom au jour du mois et qui n'a pas de yacht. Il n'a pas de yacht. Il y a une explication très simple à cela, n'est-ce pas ? Mais elle contredit immédiatement l'expression de culte du feu. On ne sacrifie pas en réalité au feu. On ne sacrifie pas au feu parce que le feu est un moyen du sacrifice. Hein, et le moyen du sacrifice. Mais donc il n'a pas de yacht, ce qui pour un philologue a une certaine logique. Deux textes toutefois sont consacrés au feu. C'est dans l'Avesta ancien, le Yasna 36, auquel le texte que nous envisageons fait référence. Le Yasna 36, c'est l'un des deux chapitres préliminaires au sacrifice qu'exprime le Yasna Haptankaiti. Hein, le premier, nous allons y venir, mais c'est dans les préliminaires du sacrifice du Yasna Haptankaiti. Dans le Yasna tout entier, il dit un chapitre de l'Avesta récent lui est consacré. Nous devrons en parler. C'est le Yasna 62. Le Yasna 62 est appelé, porte un titre moyen perse. Ne connaissons pas son titre original. Ce titre est la Tash Niyayishn. Donc c'est l'établissement du feu, ce sont les seuls textes consacrés au feu pour lui-même dans l'Avesta. Mais vous savez déjà, nous pouvons refaire cette remarque pour le feu que nous avons faite pour Srausha, c'est que dans un texte qui a été aménagé, dans un pur dessin rituel, l'ampleur des textes n'est pas significative de l'importance d'une divinité. Ce n'est pas la longueur du texte qui compte. Ce qui est important, c'est le souci de donner part à une telle divinité ou à tel élément sacré, pas au cursus sacrificiel. Or, le feu, même si peu de textes le concernent spécifiquement, même si ces textes ne sont pas très longs, il est évident qu'il joue un rôle important dans le cursus sacrificiel. Il y a trois moments importants pour le feu dans le cursus sacrificiel du Yasna. C'est le Yasna 36, c'est notre texte qui revient au Yasna 36, et puis bientôt le Yasna 62. Alors, nous allons, si vous voulez bien, je crois que nous devons nécessairement, après ce petit aperçu théorique des choses, nous pencher sur la signification du Yasna 36. C'est un texte relativement court, lui aussi, mais le Yasna Haptankaiti est un texte relativement court. Il comporte 6 strophes. Que disent-elles ? Eh bien, dans la première de cette strophe, l'on déclare, en coïncidence, hein, comme toujours, on déclare ce que l'on est en train de faire, que l'on rend, d'une certaine manière, un acte sacrificiel à Ahura Mazda, à Ahura Mazda, dans la première strophe. L'acte rituel est exprimé par Pairi Gam. Donc, il s'agit d'un rite qui suppose une circumambulation. Et cette circumambulation se fait autour du feu. Le texte l'exprime de manière métaphorique en disant, en tournant autour, en tournant, en faisant cette action de Pairi Gam, cette circumambulation, nous formons le clan du feu. Si le groupe humain qui est réuni pour le sacrifice constitue métaphoriquement un clan, et le chef de ce clan est le feu. Première strophe. Deuxième strophe, nous adressons au feu une demande. Une demande, pas n'importe quelle demande. On ne dira pas son contenu, hein, ça nous devons le deviner, comme toujours. Mais c'est une demande importante. D'abord, elle est marquée par le superlatif Mazishta. Ce que nous lui demandons, c'est la plus grande des demandes, Mazishta. La plus grande des demandes. Et le terme demande est le mot ya. C'est un mot exclusivement vieil avestique. Il n'a plus qu'une existence résiduelle dans l'Avesta récent. Il est fondé sur la racine ya, qui signifie demander. Alors, au feu, dit la seconde strophe, accorde-nous la plus grande des demandes. Ce texte est cité, d'ailleurs, il est cité dans la strophe 7 du Fshushe Mantra. Mazishtai Yonkom Paiti Jamyor. C'est la traduction, c'est la citation littérale du passage du Yasna Haptankaiti. Strophe 3, sous forme d'une affirmation particulièrement décidée, marqué par la particule dont c'est la seule attestation, voy, en seconde place de phrase, et qui représente au védique vai. Le védique vai, c'est une insistance forte. Tu, en exprimant de manière explicite le verbe être, ce qui ne se fait pas en indo-iranien ancien, le verbe être est toujours sous-entendu, des phrases qui comportent simplement sujet et attribut sont des phrases nominales. Mais l'insistance peut faire qu'on le mentionne. Tu es Ahi, tu es Voy, véritablement, vraiment tu es le feu d'Ahura Mazda. Tu es le feu d'Ahura Mazda et tu es véritablement, deuxième affirmation, son Mainyu, c'est-à-dire son élan mental. Son élan mental. Ça, c'est la troisième strophe. Quatrième strophe, circumambulation, nouveau, Pairigam, autour du feu, affirme ce geste-là. Puis, cinquième strophe, circumambulation toujours, mais on revient à Uramazda. Vous voyez, le mouvement est inverse du Shusho Mantra. On part du culte d'Uramazda pour glisser à celui du feu, et on revient au culte d'Uramazda. Et puis, la sixième et ultime strophe, elle est citée dans l'ultime strophe du Shusho Mantra, vous pouvez donc en prendre connaissance. C'est l'affirmation. C'est l'affirmation que la lumière et la forme visible d'Uramazda, sa körp, dans la traduction qui est reprise, nous attribuons le plus beau, la plus belle forme visible d'entre les formes visibles au Uramazda, les lumières ou le ciel, comme je vous l'ai expliqué la fois dernière, qui est la plus haute des hauteurs depuis que le soleil a reçu son nom. Alors que se passe-t-il dans ce Yasna 36 ? Ce Yasna 36 que, pendant très longtemps, les spécialistes ont considéré, comme tout le Yasna Haptenkaiti, comme un texte de l'Avesta récent, et un texte sans grand intérêt. L'importance du Yasna Haptenkaiti n'est acceptée, et cela de manière définitive, que depuis maintenant 24 ans, depuis 1986, et l'édition du texte qu'a fait Johanna Narten. Johanna Narten, en 1986, a montré beaucoup de choses au sujet du Yasna Haptenkaiti. Toutes ne nous concernent pas ici. Et entre autres, elle a imposé cette idée définitivement et de façon, je pense qu'il ne sera jamais plus contesté, que le Yasna Haptenkaiti est pleinement à côté des Gathas, un texte en vieille avestique. Que la langue du Yasna Haptenkaiti, même s'il montre des traces d'un jargon technique un peu différent de celui des Gathas, est une langue que l'on ne peut pas, en aucune manière, considérer comme plus ou moins archaïque que la langue des Gathas, et que dès lors, elle se situe au niveau des Gathas, et certainement pas au niveau de l'Avesta récent. Or, Johanna Narten, donc, après avoir montré l'importance au point de vue historique, car c'est un texte de fondation que le Yasna Haptenkaiti inséré véritablement au cœur du Yasna, le Yasna 36, imaginez. Il y a 72 chapitres dans le Yasna. Nous sommes véritablement à l'acmé du Yasna, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, je crois que Johanna Narten, avec beaucoup d'imagination, discerner ce qui se passait dans ce Yasna 36. Cette affirmation centrale, n'est-ce pas, après le passage du rite d'Uramazda au feu, puis une demande, puis une affirmation décidée sur la nature du feu, le feu d'Uramazda, tu es son maniou, son élan mental, puis le retour du rite à Uramazda à partir du feu, et enfin, la constitution d'une forme visible d'Uramazda. Johanna Narten a proposé d'y voir, ce qui, je crois, est sûr, n'est-ce pas ? Mais c'est un phénomène que nous connaissons dans le christianisme, c'est la transsubstantiation, en langue théologique. C'est la transsubstantiation du feu. Un feu banal que l'on allumait de main d'homme devient, à ce moment du rite, dans le Yasna 36, la forme visible des dieux. Il change de nature. Ce n'est plus le feu domestique qui est présent devant vous, n'est-ce pas ? Mais c'est la présence des dieux, littéralement, qui se trouve affirmée à ce moment-ci du rite, au moment central du Yasna. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Nous sortons du sacrifice. Si je peux forger le mot, c'est la détransubstantiation. Le feu va redevenir le feu domestique. Les dieux vont s'absenter du sacrifice. Le feu qui est là sur le socle, ce ne sera plus. Les dieux ne sont plus là, ils ne sont plus visibles. Ils se sont résorbés dans un feu qui est rendu à son existence triviale. Après un certain nombre d'opérations qu'il nous reste à définir, bien sûr. Mais donc nous avons, après la réinsertion des officiants dans le monde matériel, ça, c'est le premier acte de dégagement sacrificiel, en quelque sorte. Nous avons le deuxième maintenant, n'est-ce pas ? C'est la détransubstantiation du feu. La deuxième opération de sortie du sacrifice. Alors, vous voyez le problème, certains d'entre vous ont peut-être entendu, il y a un mois, je crois maintenant, les problèmes que se posent les archéologues ou les historiens à propos de la présence ou non d'autels du feu, n'est-ce pas, sur les fouilles ou bien dans les représentations figurées du monde achéménide. C'était de cela qu'il s'agissait avec les conférences de M. Garrison. Vous voyez que moi qui, philologue indo-iraniste, je poserai la question, serait celle-ci. Il faut bien voir que la présence du feu au sacrifice peut être un élément de nomadisme maximal. C'est ce que représentent les textes védiques. Ce que représente peut-être, au fond, le Yasnaraptankaiti, encore. Pas le nomadisme maximal du feu sacrificiel. C'est-à-dire que l'on aménage l'ère sacrificielle quelque part, n'importe où. Mais on l'aménage, on construit l'autel du feu. On allume le feu, puis éventuellement, il y a transsubstantiation, comme le Yasna Ramtankaiti nous le dit. Et puis, quand le sacrifice est terminé, on éteint le feu, on démonte l'autel du feu et on efface toute trace d'aménagement d'une ère particulière. Cela, c'est l'ancien état indo-iranien des choses, n'est-ce pas ? Alors, peut-être bien, est-ce encore là, comme cela, n'est-ce pas ? Il faut encore voir les choses comme cela pour les textes vieillis avestiques pris pour eux-mêmes. Alors, il y a bien sûr le sédentarisme maximal du feu, hein, celui que représente, à partir de l'époque sassanide, en tout cas, le mazdéisme. Il y a temple, il y a un autel du feu inamovible, et il y a un feu permanent. Cela, c'est la sédentarisation maximale. Alors, où en sommes-nous ? À l'époque où le yasna a été constitué. Bon, pas assez d'éléments pour le dire. Savons pas. Hein, savons pas. Que nous disent les représentations du monde achéménide ? Les plus anciennes, vous savez, datent du règne de Darius. Hein. Eh bien, il est très difficile de le dire aussi. Hein. Il n'y a pas de temple encore. Hein. Visiblement, c'est un culte rendu à l'air libre. Mais ce qui ne signifie pas que l'ère sacrificielle soit arbitraire. Hein. Il peut s'agir d'une ère sacrificielle conventionnelle et déterminée. Les autels, visiblement, sont construits, ne sont pas démontables. Enfin, on ne peut pas les mettre en pièces, on ne peut pas les déconstruire. Mais ce qui ne signifie pas qu'ils sont inamovibles. On peut les transporter. On a parlé d'ailleurs d'autels du feu portatifs, hein, qui se déplaçaient avec les rois, avec les voyages des rois. Nous ne pouvons pas savoir non plus si le feu est permanent. Hein. Donc, pour le monde iranien ancien documenté, pour l'Avesta que nous possédons avec le rite du Yasna, pour le monde achéménite, nous ne savons pas exactement à quel moment nous nous situons dans le processus de sédentarisation du feu. Hein? Alors, voir lorsqu'on découvre un autel du feu quelque part, une évidente marque de zoroastrisme ou la présence d'Iraniens, etc., ce n'est pas significatif, parce que du point de vue de la place du feu dans le culte, il n'y a pas de différence entre le monde indien et le monde iranien à l'origine. Ce qui va différencier l'Inde brahmanique, l'Iran de l'Inde brahmanique, c'est la sédentarisation du feu, et nous ne parvenons pas à la situer. Hein, et ce n'est pas un phénomène nécessairement tranché. Alors, voilà, je crois que nous avons présent identifier l'opération en cours, hein, la banalisation du feu rituel. Mais il nous reste trois questions auxquelles j'aimerais bien, idéalement, parce que ce serait un gage de cohérence, apporter une réponse globale. La première question, c'est le rapport conceptuel entre ce que j'ai appelé l'homme phallos du texte, la commémoration du conquérant du bétail, et les deux volets, qui sont un volet qui sont tous deux consacrés à la protection du bétail. La deuxième question, l'évocation du Yasna 36 a une logique, puisqu'il s'agit d'une opération qui concerne le feu. Mais que vient faire ici le Yasna 34 ? Quelle signification l'arrangeur du Yasna accordait-il au Yasna 34 pour en faire l'usage qu'il en a fait dans ce texte ? Ensuite, de façon plus précise, nous avions commencé par là, comment faut-il comprendre précisément le genre rituel défini par le mot « nemar » que nous traduisons par « hommage », qui représente donc le sanskrit classique, le namas. Qu'est-ce qu'un hommage du point de vue rituel? Bon, alors, pour répondre d'abord à la première question, nous avons dégagé des éléments de réponse déjà. Nous ne pouvions pas envisager le texte autrement, n'est-ce pas ? On voit bien qu'il s'agit de façon d'une opération rituelle qui concerne les êtres vivants matériels, les gaitas, et qui sont même définis de manière plus spécifique comme le bétail, hein, pasu, pshu. Et je vous ai signalé l'interprétation qu'avait faite lors de mon séminaire il y a 3 ans, Xavier Tremblay, qui avait vu dans le rapport donc, entre l'homme phallos et, le volet, et les volets la complémentarité entre l'action d'acquérir le bétail et une autre action qui est celui de la conserver. Certainement, cette complémentarité est là. Mais ne faut-il pas pousser cette complémentarité jusqu'à des conclusions beaucoup plus tranchées. Alors voilà. Maintenant, je voudrais, avant d'aborder cet essai, avouer mon embarras. Je suis embarrassé parce que je n'ai pas de réponse très ferme ou de belles démonstrations à proposer. Je n'ai que chasser des indices et des indices extrêmement discrets. C'est-à-dire que ce serait sans doute quelque chose, un exercice auquel normalement je ne me livrerai pas. Si, je pense que nous sommes ici peut-être devant l'essentiel de notre représentation du sacrifice. Et puisque le moment du sacrifice que nous envisageons ici représente peut-être la nature même du sacrifice avestique, je ne puis pas passer ce problème sous silence. Et cette problématique, ben, pour la définir tout de suite, c'est celle du sacrifice sanglant, c'est celle de l'immolation d'un animal quelconque durant le sacrifice. Au début de notre, au milieu du XIXe siècle, hein, au début de nos études, il semblait aller de soi que le sacrifice masdéen, que le sacrifice avestique, impliquait l'immolation d'une victime. Paraissait aller de soi parce que, mon Dieu, cela correspondait aux origines indo-iraniennes, hein, le sacrifice sanglant et le centre du sacrifice védique et du sacrifice brahmanique. Il ne pouvait donc à l'origine en aller autrement du sacrifice masdéen. En réalité, nos conceptions ont changé depuis un article d'un certain Paul Horn. Horn, c'est un élève de Bartholomé. Paul Horn, qui a plutôt envisagé des problèmes de littérature persane classique plus tard. Mais Paul Horn a publié un article qui a été décisif dans les Indo-Germanische Forschungen numéro 2 de 1893, où il expliquait que l'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle religion indo-iranienne qui était le masdéisme, il y avait un interdit du sacrifice sanglant, il y avait un renoncement, une condamnation du sacrifice sanglant, et cette représentation a été très communément partagée, pour ainsi dire unanime, jusque, on trouvait sa dernière expression ferme en 1964 dans un article sur le sacrifice iranien d'Émile Benveniste dans le journal asiatique, où Benveniste se laisse entraîner par sa plume en affirmant de manière décidée que Zarathoustra a condamné avec véhémence le sacrifice sanglant. Je voudrais savoir où, car effectivement, le sacrifice sanglant est absolument absent du texte avestique si on ne veut pas le chercher. Rien ne l'exprime, mais rien non plus n'exprime la condamnation. C'est le zéro absolu. Rien. Hein? Rien du tout. Donc, en effet, c'est un fait que si on lit le Yasna, traduction de Darmstetter ou celle de Bartholomé, ben, on ne situe pas une immolation dans le cursus liturgique. Ce n'est pas possible. Et pourtant, à certains égards, l'Avesta l'atteste. L'Avesta en témoigne. Bon, D'abord, les listes des sacrifiants, les catalogues des sacrifiants, tels qu'il en existe dans certains Yacht. Bien, la plupart de ces sacrifiants se livrent à une hécatombe. 100 chevaux, 1000 vaches, 10 000 moutons. Bien. Deuxième attestation, le Yacht 10 à Mitra, strophe 119. Les Mazdéens, dit les Mazdayasna, c'est donc bien un sacrifice mazdéen, hein, c'est les Mazdéens qui le rentrent. Les Mazdéens, dit le texte, te sacrifient sans cesse. C'est un passé de répétition. Te sacrifient sans cesse, et puis, comme vous le savez, l'objet du sacrifice à l'instrumental, hein, pas soubia, pas seulement pas soubia, il y a aussi, semble-t-il, de la volaille, hein, des oiseaux, pas soubia. Donc on t'offre le sacrifice au moyen du bétail. Donc on se livre à une immolation de bétail. Nous pouvons passer au fragment maintenant. Ah non, excusez-moi, il y a encore autre chose dans le corpus, dans l'Ausgabe lui-même, et nous l'avons vu il y a peut-être quelques années dans le Yasna 9, Hauma, le dieu Hauma que l'on pressure, a droit à un Draunar. Draunar. C'est un terme aussi tout à fait indo-iranien traditionnel, dravinas, en sanskrit védique, dravinas, c'est la ration rituelle, c'est la part réservée de la divinité. Et cette part réservée, cette ration sacrificielle de Hauma, ce sont les mâchoires avec la langue et l'œil gauche. La mâchoire avec la langue et l'œil gauche. Donc, il y a immolation, on ne peut pas le nier. Yasna 58 se pose la question. C'est un livre de prescription rituelle où on détermine ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas lors du sacrifice. Et le Yasna 58 débatte la question de savoir quels animaux peuvent servir de victimes sacrificielles. La réponse du texte avestique légitime, à côté de la vache bien entendu, le chevreau et le porc. Le chevreau et le porc. Le texte Pelvi, la traduction, le commentaire Pelvi du texte avestique, ajoute le gros bétail, c'est-à-dire les chevaux et les bovins, les moutons, l'âne et la volaille. Les Pourzichniha 33, c'est une sorte de petit catéchisme qui procède par questions et réponses. On pose une question sur la légitimité de tel acte sacrificiel ou non, et il y a une réponse. Bien, les Pourzichniha 33 ne nous parlent pas véritablement des victimes sacrificielles, mais elles nous parlent de la philosophie de l'immolation. Ils nous disent qu'on envoie l'âme de la vache, pas seulement son âme, de ses forces immatérielle, c'est-à-dire l'une que nous connaissons bien, sa perception sensorielle, Bauda, perception sensorielle et son âme interne, son Nurvan. Bien, le Bauda et l'Urvan de la vache est expédié vers les lumières. Donc, nous comprenons bien ce petit fragment, on songe à un témoignage grec, le témoignage de Strabon, qui avait observé les mages mèdes de Cappadoce, au 1er siècle de notre ère, et qui nous donne cette information, c'est qu'il y a immolation, et bien sûr, mais les dieux ne consomment pas la chair, ils n'ont besoin que de l'âme de la victime, ce qui, pour un grec, était particulier, bien sûr, puisque l'offrande grecque est un holocauste, c'est-à-dire l'on offre la viande aussi à la divinité. Mais Strabon a fait remarquer que les dieux n'avaient besoin que de l'âme, que de la part éternelle de la victime, que de l'âme. Et c'est cela qui évoque, bien entendu, quelque chose comme les Pourzichniha 33. Alors, nous avons ces détails que je viens de vous exposer ont amené une réaction dans la position des scientifiques vis-à-vis du sacrifice sanglant à l'intérieur du mazdéisme. Et cette réaction a eu lieu autour des années 70. Hein, c'est en 1966, Mary Boyce, qui connaît bien les rites des Zoroastriens d'aujourd'hui, mais qui connaît aussi remarquablement bien toute la littérature, les Nirankes, comme on les appelle, toute la littérature des prescriptions rituelles, avait fait remarquer dans un journal du Royal Asiatic Society que les Mazdéens avaient toujours, à toute époque de leur histoire, pratiqué ce que l'on appelle en moyen perse l'attache zohar. L'attache zohar, c'est-à-dire la libation dans le feu. La libation dans le feu. Et cette libation dans le feu, c'est en général à l'époque moderne un peu d'huile. Mais bien entendu, à une époque plus ancienne, il s'agit de beurre fondu, il s'agit donc d'un produit animal, n'est-ce pas ? Et fait remarquer Mary Boyce qu'à son époque, en 66, les plus vieux prêtres zoroastriens se souvenaient que la plupart du temps, cette offrande au feu était un morceau de viande. C'est-à-dire un mince morceau de l'animal qui avait été immolé. Mary Boyce, donc la position de Mary Boyce à partir de ce moment est très certainement de penser que le sacrifice sanglant est une constante du mazdéisme depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, même s'il a pris aujourd'hui des allures extrêmement humbles. À la même époque, dans le courant des années 70, dans les mélanges rap. Malheureusement, mon exemplaire ne comporte pas de date d'édition. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'est dans les années 70. Helmut Humbach, qui est un homme extrêmement différent de Mary Boyce et qui envisage les problèmes d'un tout autre point de vue scientifique, n'est-ce pas, a lui aussi montré que qu'il fallait concevoir, même à l'époque ancienne et avestique, le sacrifice mazdéen comme comportant une immolation, pour deux raisons extrêmement, deux raisons linguistiques. Humbach est un philologue de l'époque ancienne, et cette raison, c'est les deux façons de pratiquer ce l'attache zohar. Il y a un rite préliminaire se produit au début du yasna et qui s'appelle le Go Shodak. Une offrande un peu plus importante dans le courant du yasna, nous y viendrons, et qui s'appelle, nous dit Boyce, le Yasht I Fant. Or, Goshodak, Gosfant, sous l'allure moyen perse de ces expressions, nous retrouvons un traitement savant de la terminologie avestique. Goshodak, c'est Gaur, Houdar, façon de s'adresser à la vache. Ça vient d'ailleurs du vocatif, avec le sang dit, bien sûr, Gaushuda. Vache généreuse. Lorsqu'on parle à la vache, on interpelle. Dans le passage des Pourzichnia, qui dit nous expédions ton âme vers le ciel, vers les lumières, c'est l'expression que l'on emploie. On parle à la vache et on lui dit vache généreuse. Vache généreuse. Gosfant, Gau, Spenta. Donc, répété avec Goshuda dans le texte des Pourzichnia. Vache bienfaisante. Vache généreuse, vache bienfaisante. Ce sont les expressions par lesquelles l'on s'adresse à la bête immolée. Alors, voilà où on est venu là. Cette idée qu'il n'y que le mazdéisme ait pu comporter un sacrifice sanglant a, pour des raisons extra-scientifiques, je pense, mais je ne veux pas faire de procès d'intention, profondément déplu. Et la position de la majorité des spécialistes aujourd'hui consiste devant le matériel documentaire tout de même considérable que nous avons, à considérer que consiste à considérer que le sacrifice sanglant a été pratiqué avant Zarathoustra et que c'est une résurgence du passé dans les textes des Yasht ou du Humstom que je vous ai cités, et qu'il a été pratiqué après, mais que effectivement Zarathoustra lui-même l'avait condamné. Et cette expression se trouve dans un petit paragraphe que je vais vous lire en traduisant chez Gerardo Agnoli dans son livre Zoroaster's Time and Homeland de 1980, page 183. Il ne peut y avoir aucun doute, dit-il, que la principale caractéristique des enseignements gathiques est une foi monothéiste et une religiosité intérieure qui est essentiellement anti-ritualiste et anti-sacrificielle. C'est la négation pure de l'évidence, n'est-ce pas ? C'est la négation pure de l'évidence. Nous avons affaire à un long sacrifice qui, même s'il ne laisse aucun indice clair dans le yasna, a lieu. Mais s'il y a, effectivement, dans le cadre du sacrifice qui a été élaboré par la compilation du yasna, nous allons comprendre nos Shusho mantras de cette manière. Le Dieu a conquis sa part de la victime. Métaphoriquement, c'est assimilé à une razzia. Le Dieu a razzié sa part d'offrande carnée. Et il va protéger ce qui nous reste. Ça, c'est la complémentarité qui a été invoquée par Tremblay. Mais cette complémentarité, c'est celle qui est instituée par le sacrifice sanglant. Alors, quels sont les indices de sacrifice sanglant que nous trouvons dans notre mantra ici ? Eh bien, je vous inviterai à regarder la strophe 4. La strophe 4. Il y a cette étrange représentation de la cosmogonie qui est extraite d'ailleurs, qui est calquée sur la cosmogonie du Yasna Hamtang Haiti, le Yasna 37.1, et qui pratique ce que l'an dernier, en examinant le problème des Fravashi, j'ai appelé la chaîne cosmogonique. On passe le ciel, la terre, les eaux, les plantes, la vache, l'homme. Il y a une logique reconnaissable que je n'ai pas besoin de commenter dans une telle succession. Eh bien, dans la première strophe du Yasna Haptang Haiti, il y a une place complètement illogique, complètement distraite, attribuée à la vache. C'est la vache qui est en tête. Pas tu as mis en place, dit le chantre, dans la toute première strophe du sacrifice à Ahura Mazda, la vache. La vache en premier lieu. Et Asha. Puis seulement, deuxième groupe, les eaux et les plantes. Enfin, les lumières, c'est-à-dire le ciel et la terre. Donc, la vache, en quelque sorte, se dégage entièrement de la chaîne cosmogonique pour en former l'élément initial et essentiel. Indice discret, ce qui vaut ce qui vaut, hein. Je vous le livre, je ne fais pas de raisonnement de spéculatoire, c'est pas, je vous donne les indices discrets, c'est à vous de juger de leur vraisemblance. Ensuite, j'examinerai tout de même les raisons que nous avons de les raisons que le Dieu aurait de protéger et qui sont exprimées dans la même strophe 4 avec les termes qui suivent Hadar. Donc, les raisons de protéger, pour prix 2, et je traduis pour que ce soit, pour attirer votre attention là-dessus, pour prix de achat, de l'agencement, du soin de pâture, Vastra, Frarati, de l'offrande généreuse, c'est l'offrande dispendieuse, celle qui s'exprime par Ra. Vidisha, du partage, Vidisha. Ainiti, de l'absence de mal et du feu. Alors, nous avons disposé de manière en miroir, comme les textes avestiques aiment le faire, ce qui donne cette illusion de ring composition qui plaît tellement à certains spécialistes américains des littératures. Nous trouvons aux deux extrémités, les deux tranchements d'ailleurs, les deux divinités tutélaires du moment exact de midi. L'agencement, Asha, et à l'autre bout, le feu, Antar. Donc, les deux divinités sacerdotales qui sont concernées dans ce texte. Frarati, c'est l'offrande. L'offrande est son partage. Alors, ce que je penserai, et nous allons y venir, n'est-ce pas, c'est que la vie d'Isha, le partage, c'est le partage entre la chair et son odeur. Et son odeur, qui, une fois consumée par le feu, figure au dieu l'âme de l'animal, c'est le symbole sensible de l'âme animale qui vient d'être offerte dans le sacrifice. Et cela expliquerait que, au fond, la conception qui s'exposerait ici, c'est que les troupeaux sont progressivement confiés à un feu qui, une fois accompli sa mission de partage, dissocier la chair du fumet, n'est-ce pas, redevient un feu domestique. Alors, remarquez aussi la présence du vocabulaire pastoral, ce qui nous induit à commenter une autre question extrêmement générale de la rhétorique du sacrifice dans l'Avesta, c'est l'omniprésence du vocabulaire pastoral. Vocabulaire pastoral qui est concentré en général de façon presque exclusive sur le mot vastra, ses dérivés. Il n'y a pas d'équivalent sanskrit. Mais le vastra, c'est un mot qui désigne les soins que l'on apporte au bétail, les soins de pâture, le nourrir, le tenir en bonne santé, etc. Le vocabulaire pastoral est permanent. Ce n'est pas ce qui a entretenu parfois l'idée très au premier degré que nous avions affaire à un sacrifice qui était typique d'une société d'agriculteurs pour qui les travaux de soins à apporter au bétail sont quelque chose d'essentiel, hein, ce qui est une façon de comprendre les choses au premier degré. Mais qui est une des représentations les plus générales de notre discipline. Alors, je dirais que vous savez bien que j'entretiens depuis longtemps, ça remonte aux années 90, mais j'en ai repris conscience un peu plus, de manière un peu plus articulée durant les dernières années, et je crois vous l'avoir expliqué il y a 3 ou 4 ans. Je nourris le soupçon, n'est-ce pas, même jusqu'à la conviction, que nous avons en ce domaine affaire à un euphémisme, et même le pire des euphémismes, celui de l'antiphrase, n'est-ce pas, lorsque l'on dit il faut apporter à la vache de bons soins de pâture, ça signifie lui couper la gorge. C'est cela que je voudrais. C'est de cela qu'il est question. Nous y viendrons d'ailleurs. Alors, vastra, ici, les soins de pâture, ce serait une allusion euphémistique, bien sûr, de l'immolation, et avec l'affirmation, elle aussi antiphrase, que cela va sans douleur, ainiti, compris de l'absence sans douleur. Alors, ce n'est pas une idée entièrement arbitraire. Nous avons le nœud de l'antiphrase, et il est indo-iranien. C'est qu'une désignation de la vache dans le Rig Veda est Agnya. La vache est Agnya. L'équivalent avestique est attesté dans l'Yasna Habtankhaiti. Agnya, vache Agnya. Nous disposons d'un article toujours de Johan Arten sur ces deux termes dans les Acta Orientalia de Hollande de l'année 71. Or, il ne fait aucun doute de manière. Il ne fait aucun doute que du point de vue linguistique qu'il s'agit d'un verbal d'obligation négatif construit sur le verbe tuer. C'est la vache qu'il ne faut pas tuer dans les deux cas. Littéralement. Le mot est reconnaissable. Il est tout. Pour nous, bien sûr, mais je veux dire à l'époque des. L'époque, ce n'est pas un mot dont il faut chercher longtemps l'étymologie. Pour l'homme avestique, il est clair qu'Agnia signifie qu'il ne faut pas tuer. Or, justement, par paradoxe, c'est celle-là que l'on tue. Et qu'est-ce que c'est que la vache qu'il ne faut pas tuer ? Celle dont la perte est la plus dommageable. C'est une vache pleine. Car en tuant la vache pleine, on interrompt le lien de fertilité et on renonce au lait permanent, car une vache qui va avoir un veau pour la première fois va se mettre à produire du lait de manière discontinue. C'est donc véritablement, là, au sens anglo-saxon du terme, un sacrifice. On sacrifie littéralement quelque chose en tuant celle qu'il ne faut pas tuer. Nous sommes là au cœur du paradoxe du sacrifice indo-iranien du point de vue terminologique. Hein. C'est là. Vous voyez que les Iraniens et les Indiens ont hérité pareillement de cette idée fondue dans leur terminologie, dans leur langue, que la victime par excellence est la victime qu'il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer, la vache pleine. C'est la meilleure, c'est la victime idéale, pas la vache pleine. Bon, donc nous en avons cette... Je crois qu'un exemple comme cela montre que nous sommes au cœur des pratiques de l'euphémisme, du tabou, de l'antiphrase. Alors, vous voyez, les raisons de protéger le bétail, que le razzieur du bétail maintenant a, n'est-ce pas, c'est que c'est d'une part l'offrande maximale, frarati, c'est sa distribution, vidisha, c'est l'immolation, conçue comme pâture, pastra, et comme absence de souffrance, ainiti, et c'est l'opération du feu, c'est l'opération du feu. Alors, je voudrais ici en revenir à la deuxième de nos questions, le Yasna 34. Quel est le rapport entre notre texte et le Yasna 34? Vous allez voir, nous allons revenir à la même problématique. Le Yasna 34, ce qu'il nous dit dans sa première strophe, c'est qu'il va y avoir un acte essentiel. Il est la mise en évidence, vous savez, l'importance que les exégètes avestiques accordent au premier mot d'un texte. Eh bien, ce qu'annonce la première strophe par son premier mot, c'est un acte. Yashiaotana. L'acte par lequel. Bon, et puis le texte suit. L'acte par lequel. Là, c'est... Or, le premier chapitre du Yasna Habtankaiti, Yasna 35, chapitre suivant, est un chapitre de préliminaire consacré essentiellement, lui aussi, à l'acte rituel. Puis, c'est le Yasna 36, je vous fais remarquer. Hein. Alors, dans les deuxième et troisième strophes, c'est la disposition des êtres vivants autour du feu. Or, ces êtres vivants, nous dit le texte, constituent un miasda. Un miasda. C'est l'équivalent du sanskrit védique miyeda. Et c'est complémentaire de la zaotra, la libation, qui est en védique hotra. Hotra. Zaotra, hotra, c'est l'offrande liquide. C'est l'offrande liquide. Le miyeda, miyazda, c'est l'offrande solide. L'offrande solide. L'offrande solide qui, si immolation il y a, c'est le terme qui la désigne. La viande de la chair sacrificielle, c'est cela. Notez que ça peut être quelque chose de plus réduit dans le sacrifice d'aujourd'hui, ou dans le sacrifice indien aussi, ça peut être une galette de riz, ça peut être un morceau de pain, n'est-ce pas ? C'est évidemment une question de... plus ou moins de luxe des offrandes. Ce n'est pas... Mais on peut imaginer ce que ça pouvait être alors sous l'Empire sassanide, par exemple. Il constitue un miasda, une offrande solide. La quatrième strophe, c'est l'eulogie du feu, dont je vous ai parlé, et puis, dans les strophes 5 jusqu'à 7, la protection résultante. Alors, il faut rapprocher, je pense, le Yasna 34 de ce que nous en dit Boyce dans l'article, non pas de 1966 sur l'attache Zohar, la libation dans le feu, mais dans un article qui est paru 4 ans plus tard, en 70, donc dans le Henning Memorial Volume. Lorsqu'il y a immolation, selon les règles, les nirank, les dispositions rituelles, c'est le frabartar qui se charge de tuer la victime. Ça peut être frabartar. Ça ne se lit pas dans son nom, puisque c'est celui qui apporte, simplement. Frabartar. C'est un membre du collège sacerdotal. Et il procède à la mise à mort de la victime juste avant le Yasna 8. juste avant le Yasnawit. Pour une raison qui est même claire là-bas, puisque le Yasnawit, c'est l'entrée des officiants qui ne sont pas encore investis sur l'ère sacrificielle. Et la première opération qu'ils vont faire, c'est consommer eux-mêmes un morceau du miasda. Hein. Ils vont donc manger un peu de chair de la victime. La victime, ou un morceau de la victime, est rôti sur le feu après la récitation du Yasna 34. Nous y voilà. Hein, nous y voilà. La victime est mise à rôtir après la récitation du Yasna 34 et le partage de la victime entre... Il y a eu partage avec la divinité, le fumet et la chair, mais la chair de la victime sera distribuée durant la récitation du Yasna Habdankaiti aux membres, à ceux qui y ont droit, c'est-à-dire aux membres du collège sacerdotal, mais aussi aux commanditaires du sacrifice qui fera de la chair l'usage qui lui semblera bon. La victime doit toujours être cuite à cause du fumet, hein, puisque c'est le fumet qui va symboliser l'âme offerte au Dieu. Et ensuite, on ne peut rien partager, nous dit Mary Boyce, avant la combustion totale de la chair qui aurait été offerte au feu, éventuellement. On ne peut rien partager. Bon, alors, il faut rapprocher certainement toutes ces indications utiles, dégager des dispositions rituelles, même si elles sont d'aujourd'hui par Mary Boyce, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de rapprocher ceci de cette constatation sur laquelle on a attiré l'attention depuis quelque temps, c'est que dans le Yasna d'aujourd'hui, les gestes sont suspendus, il n'y a plus aucun geste après la récitation du Yasna 34.4. Seule la récitation a lieu, mais aucune manipulation, aucun geste n'est plus fait après la récitation du Yasna 34, et cette absence de mouvement persistera jusqu'au Yasna 59-28, c'est-à-dire à la fin du chapitre qui suit le Shusho Mantra. Or, c'est un peu l'ironie du sort, n'est-ce pas, car il y a, en 2001, mon collègue Antonio Panaino était venu faire 4 leçons ici au Collège de France et avait expliqué que c'est un de ceux qui refusent bien sûr le sacrifice sanglant dans le cadre de rituels mazdéens anciens du moins, et il avait expliqué que cette suspension des gestes pendant la récitation de l'Avesta récent, de l'Avesta ancien, au contraire, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait exact. Le Yasna 34, la première gatha a été récitée, et on persiste bien au-delà du Yasna 53, que cela ne reprend qu'au Yasna 58. Eh bien, disait-il, cette suspension des gestes est une preuve de ce qu'il appelait l'intériorisation du sacrifice. C'est-à-dire que la récitation des gathas correspondait à une phase sacrificielle de nature essentiellement mentale, pendant laquelle les officiants pratiquaient une sorte de méditation extatique sur le message sublime des gathas. Oui. En réalité, ce silence, cette absence des gestes, pas le silence car il y a récitation, mais cette absence des gestes est, semble-t-il, requise durant le entre l'immolation et la combustion de la victime. C'est entre donc, le moment de la mise à mort et le moment où toute trace de présence carnée de la victime au contact du feu a pu disparaître. Je ne sais pas comment on peut interpréter cela. Je ne sais pas si c'est ancien non plus. N'est-ce pas ? On peut affirmer que c'est ancien. Mais les nirangs, ce sont des dispositions d'ordre rituel qui accompagnent certains manuscrits de l'Avesta et qui remontent à notre Moyen-Âge. Donc la réalité n'est pas une réalité nécessairement extrêmement ancienne. Alors je voudrais quand même, avant d'en terminer avec ceci, donner le témoignage du Vispered 15.1. Le Vispered 15.1 est un petit texte, un extrait du Visprat, qui est inséré juste avant la récitation du Yasna Raptankaiti, et qui est très original, car sa terminologie ne ressemble à aucune autre. C'est une de ces deux strophes du Visprat qui présente un caractère fortement spécifique. Alors, on s'adresse aux Mazdéens, aux Mazdéens, aux vous qui rendez le sacrifice à Mazda. Tenez vos pieds, tenez vos mains, tenez vos oreilles. Je ne sais pas du tout ce que cela implique, hein, mais je traduis littéralement. Tenez vos pieds, tenez vos mains, tenez vos oreilles. Et alors, l'affirmation, Vereziatan Mida, Vohuvastria, à présent, maintenant, Ida, vont être accomplis les bons soins de pâture. Vohuvastria, retour de ce vocabulaire pastoral, peut-être antiphrase. Et puis, une expression énigmatique que je ne sais pas non plus, donc je ne peux pas donner l'interprétation. Daste, donne le dernier mot d'abord, pour donner. Ces soins de pâture seront faits pour donner. Pour donner Uyamna, un neutre pluriel, les choses qui manquent, les choses qui font défaut. Anuyamnaish, au moyen des choses qui ne font pas défaut. Pour donner ce qui fait défaut au moyen de ce qui ne fait pas défaut. Le message de cette strophe est évidemment pour nous extrêmement cryptique. Alors, j'aurais peut-être voulu, je vais terminer avec ce texte sur cette notation, j'aurais voulu peut-être essayer de définir si cette offrande carnée a un rapport plus précisément désigné par le terme « nema namas ». Ça demanderait une investigation dans les gathas qui appartient plutôt au cours que je voudrais faire l'an prochain. Et je vous avouerai que je ne sais pas. Il y a des indices, oui, mais ils ne sont pas non plus décisifs. Ils ne sont pas plus décisifs que tout ce que je viens d'exposer aujourd'hui. Mais il est possible, n'est-ce pas, que ce que l'on fait ne manque pas, ce sont les actes rituels que l'on pratique en offrant une victime animale. Mais ce n'est qu'une possibilité et il faudrait une nouvelle exégèse de l'attestation du mot dans l'Avesta ancien, parce que l'Avesta ancien est le seul passage avestique où le mot namas a une vie suffisante. Ce n'est plus véritablement un terme de l'Avesta récent. Enfin, pour élucider le mot, c'est l'Avesta ancien qui serait le témoin principal. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.